Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus comme tous les lundis dans Bistro Vélo avec un programme très riche. Encore une fois, on est ensemble pour parler, échanger autour de notre passion pendant un peu plus d'une demi-heure avec Franck Bonamour qui sera notre invité dans quelques secondes. Juste le temps pour vous, pour nous, de découvrir le menu du jour au menu. Forcément, on va parler un petit peu de Bretagne avec les galettes bretonnes, le Bistro News, on fera le tour de l'actualité avec notre invité et le dessert du jour. Je vous rappelle également que c'est votre émission, vous n'hésitez pas. Vous posez vos questions via le live Facebook à Franck Bonamour. Franck, sois le bienvenu dans le bistrot du vélo. C'est un plaisir de t'accueillir en direct de Tignes. On a pris de l'altitude, c'est bien ça?
Bonjour, oui, bah merci de m'accueillir. En direct de Tignes depuis hier soir. Après le Dauphiné, je suis monté tout de suite avec Alexis Goujard. On est tous les deux en stage en altitude jusqu'au championnat de France.
On a quitté Franck Bonamour sur une échappée, c'était hier sur la dernière étape du Critérium du Dauphiné, on t'a suivi toute cette semaine et du coup sans transition, on monte en altitude pour la préparation j'imagine des championnats de France et bien entendu du Tour de France. Ça se passe plutôt bien cette transition, tu vas rester combien de temps à Tignes avant de redescendre?
Oui c'est ça, c'est la préparation du Tour qui commence et même qui se peaufine. Donc on va rester une dizaine de jours en altitude tous les deux. C'est vrai que cette année j'avais l'envie de mettre ça en place, c'est une nouvelle chose pour moi, c'est une première. Donc je voulais essayer, ça marche pas, je verrai bien sur le Tour de France, mais c'était un souhait de ma part. Ouais.
C'est le lieu de résidence, on le disait, Primoz Roglic, qui était avec toi sur le Critérium du Dauphiné, vainqueur de ce Critérium qui est arrivé également en altitude. Vous allez tous vous croiser à l'entraînement, vous allez pouvoir justement débriefer ce Critérium du Dauphiné. Comment tu l'as vécu, toi, cette semaine, Franck? Cette épreuve, on l'a vu, très difficile, un beau temps, certes, mais il y avait des cols à escalader quand même, notamment sur la fin, ça faisait mal aux jambes. C'est allé très vite encore cette année.
Ouais, cette année c'était, je pense que c'est tous les ans difficile de finir, mais cette année c'était tous les jours au moins 2000 mètres de dénivelé, donc tous les jours c'était difficile. Il n'y a pas eu beaucoup de moments de répit, ça roulait très vite toute la semaine et avec un bouquet final en montagne où on a eu deux très belles étapes. Mais pour ma part et pour mon équipe BNB Hotel, on a fait, je pense, un beau Dauphiné. On s'est montré à l'avant avec Pierre Roland qui marchait très très fort, qui a fait, je crois, 6 ou 7 échappées, et c'est ce qu'on voulait faire au début du Dauphiné, donc pour nous le Dauphiné est réussi.
Ouais, vous êtes content au sein de cette formation BNB Hotel KTM, j'imagine, de ce Dauphiné, tu le disais, on t'a vu à l'avant sur la dernière étape, on a vu Sébastien Schönberger, l'Autrichien, régulièrement à l'avant, et Pierre Roland donc, qui remporte ce classement de la montagne, avec une deuxième place également pour Pierre Roland. Satisfaction globale au sein de l'équipe?
Oui, je pense que tout le monde est satisfait, les coureurs, le staff. Et, voilà, on s'était dit qu'on voulait, on voulait se montrer, on voulait faire le vélo qu'on sait faire, le vélo qu'on aime, qui est d'attaquer, d'être devant, d'être acteur. Je pense que c'est ce qu'on a fait. On n'est pas passé le train de la victoire avec Pierre qui manque pas grand-chose la victoire avec cette deuxième place, donc, et qui ramène ce beau maillot qui pour nous est important sur une course de cette ampleur, et donc ouais, c'est un Dauphiné très positif. Ouais.
On avait eu un petit peu peur, Franck, on connaît ton tempérament de baroudeur qui aime partir dans les échappées. C'est vrai qu'on ne t'avait pas vu sur le début de la semaine. Et puis sur cette dernière étape, direction le plateau de Solaison, tu t'es mis dans l'échappée matinale. J'imagine que ça doit quand même te réconforter un petit peu sur les sensations. Tu es en préparation, on le disait, pour le Tour de France qui sera, on peut l'imaginer, ton objectif de la saison. Ça a dû te faire du bien dans la tête de te retrouver à l'avant avec les meilleurs IA.
Oui, ça fait du bien de se retrouver devant. J'ai essayé plusieurs fois sur ce Dauphiné, ça m'a pas souri. J'avais pas non plus les sensations que j'espérais avoir, que j'ai eues sur cette dernière étape. Mm-hmm. Donc oui, j'étais bien content de finir là-dessus, sur cette belle échappée, la dernière étape.
Alors, Franck, tu as pris, on le disait l'an passé, avec ce titre de super combatif du Tour de France qu'on a tous en tête, une nouvelle dimension médiatique. Est-ce que c'est difficile à gérer les sollicitations justement cette année? Les attentes sont bien entendu plus élevées avec ce que tu as fourni sur la saison 2021 qui avait été une saison extraordinaire pour toi au même titre que ta formation. Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que ça te pèse un petit peu ou alors c'est pas grave, c'est le jeu?
Non, moi j'en suis tout à fait conscient qu'il y a plus d'attentes sur moi. depuis l'an passé, depuis le Tour de France notamment, mais non, c'est pas quelque chose qui me pèse forcément ou qui met plus de pression. J'y vais naturellement comme je sais faire et voilà, non, c'est ça, je fais le même travail que l'an passé et en espérant que ça marche aussi bien.
Parle-nous justement un petit peu de ton début de saison. On sait que ça avait mal commencé sur le Grand Prix La Marseillaise. Il y avait eu cette chute, finalement, plus de peur que de mal, c'est ça?
Il y a eu cette chute sur la première course à la Marseillaise, oui, qui m'a retardé pour ma préparation du début de saison, notamment pour nos premiers objectifs qui étaient Paris-Nice. Oui, du coup, j'ai pas fait un début de saison optimal. J'étais souvent à la recherche de mes meilleures sensations. Et c'est vrai que je suis tombé deux fois. J'ai eu la chance de rien me casser, mais c'était toujours une semaine ou deux de perdu. Et ce qui compte à ce niveau-là, et là je commence à revenir plutôt bien, je commence à avoir des sensations qui sont très correctes, donc c'est de bonne augure pour la suite.
Ouais, avec une deuxième place en prime sur une étape de Paris-Nice du côté de Saint-Sauveur de Montagne. Tu regrettes quelque chose sur cette première partie de saison? Pour toi, c'est oublié. On va se concentrer maintenant sur la suite. Tu as quelques regrets ou alors non?
Non, non, pour moi, je pense plutôt à ce qui va m'attendre maintenant. Je pense, j'ai pas trop pour habitude de revenir en arrière. Mais non, non, maintenant, je pense au championnat de France, au Tour de France et aux grands événements qui vont nous attendre.
Oui, parce que le Tour de France, c'est au final ce qui t'a révélé au grand public. Les suiveurs te connaissaient déjà, bien sûr, Franck, mais bah, ce Tour de France l'an passé, avec le départ à la maison, toutes ces échappées, et puis en prime, bah, le titre de super combatif, t'y repenses encore régulièrement à ce tour, le soir, peut-être en parlant avec les copains, ou alors t'as tourné la page et t'es focus sur ce qui va se passer. J'imagine qu'en tout cas, quand on t'en parle dans la rue, on te parle du dernier Tour de France, quand les gens t'abordent un petit peu.
Ouais, bien sûr, non, ça restera quand même un souvenir incroyable pour moi et j'y pense, oui, de temps en temps sur le vélo, je me remémore quelques étapes. Après, voilà, faut quand même passer à autre chose et essayer d'aller chercher d'autres résultats que sur ce Tour de France. Mais non, non, c'est vrai qu'on me le rappelle souvent ce Tour de France quand on parle de mes exploits sur le Tour de France qui ont marqué quand même pas mal de monde et c'est toujours sympa ouais, d'avoir un petit mot de la part de ces personnes-là.
Oui, puis tu étais à la maison. Justement, en parlant de Bretagne, il y a un de tes coéquipiers qui a une question à te poser, un certain Pierre Roland. Je te propose de découvrir sa question, puis on en parle juste derrière.
Salut mon Francky, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que pour toi un Tour de France qui passe pas en Bretagne, c'est vraiment un Tour de France?
Ah, c'est sûr que là, il va passer loin de la Bretagne, le Tour de France, mais le plus près, ça sera Paris. Mais non, non, ouais, c'est vrai que l'an passé, c'était quand même exceptionnel, hein, le départ du Tour chez moi en Bretagne. C'était assez incroyable. Le passage dans ma ville, là, sur la deuxième étape, où j'avais beaucoup de supporters qui m'ont encouragé, mais non, ouais, ça reste quand même un vrai Tour de France qui va nous attendre.
Ouais, il n'y a pas que la Bretagne hein, dans le cyclisme, dans le Tour de France. Il faut donner la place un petit peu aux autres. Vous l'avez souvent, vous les Bretons, le Tour de France, vous n'allez pas vous plaindre. Hein. Il faut en laisser un petit peu aux autres, notamment aux sudistes qui le demandent. On va passer aux questions qui fâchent un petit peu. Franck, il y en a déjà beaucoup. Vous êtes très nombreux connectés sur le live Facebook. Bonjour à Mickaël, à Clément. Beaucoup de questions autour de la formation BNB Hotel, comme tu peux t'y attendre, Franck, un début de saison. Pour ta formation, elle est assez compliquée en recherche de résultats. Et puis ces mots qui sont sortis dans la presse, les déclarations de ton manager, Jérôme Pinault, ce mail en interne. Est-ce que tu peux, toi, en tant que coureur de cette formation BNB Hotel KTM, nous expliquer un petit peu quel est l'état d'esprit dans ton équipe actuellement, l'ambiance?
Non, mais c'est vrai qu'il faut pas se cacher. Le début de saison n'a pas été bon pour nous. On espérait beaucoup mieux. On a eu beaucoup de malchance, même si voilà, il faut pas non plus se cacher seulement derrière ça, mais on a eu pas mal de coureurs malades, blessés et même quand même gravement blessés avec des cadres de l'équipe qui étaient sur le carreau pendant un mois, pendant un bon mois ou deux. Donc ça déjà c'était pas l'idéal. Après on sait que le vélo ça vit dans un sens ou dans un autre et la spirale voilà la spirale était négative depuis le début de saison. On a essayé de relever la tête, on a réussi à le faire sur une course comme Paris-Nice où On a été acteur sur Paris-Roubaix aussi. On a bien marché. On était devant maintenant le Dauphiné. Et depuis un mois et demi, on a nettement élevé notre niveau. Et sur toutes les courses, on est présent, on fait des résultats. Donc non, je pense qu'on avait ramassé, on va dire, début de saison. Et maintenant, on se projette sur autre chose et une nouvelle dynamique.
Lilian qui nous demande, est-ce que toi tu l'as reçu à titre personnel ce fameux mail de votre manager Jérôme Pinault?
Oui, bien sûr, il était destiné à tout le monde. Hein. Il
D'accord.
fallait que tout le monde se remette en question. Et je pense que c'est ce qu'on a fait. C'était aussi important de le faire à un moment donné pour remobiliser tout le monde et aller de l'avant. Je pense que maintenant, c'est parti pour de bon.
C'est parti pour de bon. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. On le disait, enfant de Lannion, en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Pas d'exil au soleil pour toi. J'ai vu la question passer à l'heure où tous les cyclistes partent sous le soleil de la Côte d'Azur, que ce soit du côté de Nice, Monaco ou en Principauté d'Andorre pour l'altitude. Toi, tu as choisi de rester fidèle à tes racines. On te retrouve sur tes routes d'entraînement en Côte d'Armor tout au long de l'année. C'est bien ça?
Oui, pour moi, c'est important, mes racines. Je suis attaché à la Bretagne et j'aurais vraiment du mal à partir. J'y ai réfléchi déjà à pourquoi pas déménager dans le sud pour avoir des conditions d'entraînement meilleures. Mais ouais, pour l'équilibre, mon équilibre personnel et mon équilibre familial aussi, c'était important pour moi de rester en Bretagne, à côté de ma famille. Je sais que quand je rentre, j'ai des gens qui m'attendent, voilà, dans des moments un peu plus difficiles. C'est toujours un peu plus simple d'être à côté de ses proches et c'est pour ça, ouais, je ne me vois pas pour l'instant, en tout cas à partir de la Bretagne.
C'est important pour toi, pour ton équilibre. C'est vrai que quand on parle un petit peu de toi à tes coéquipiers, quand on fait un petit tour, un petit état des lieux dans le peloton, c'est toujours le même mot. Franck, c'est quelqu'un de simple. C'est ce qui te définit?
Ouais, bien sûr, ouais, je pensais que c'était quelqu'un de simple. Ouais, je me prends pas la tête. Voilà, je suis heureux de ce qui m'arrive, heureux d'être cycliste professionnel. Je suis aussi très heureux dans ma vie personnelle et oui, je me prends pas la tête. Mais ouais, je suis content que mes collègues me voient comme ça. Ouais.
On va voir qui te voit comme ça. Justement, il y a une question d'un certain Jimmy Turgis. On l'écoute.
Bonjour Franck, j'espère que tu récupères bien du Dauphiné libéré. J'aimerais savoir quelles étaient tes sources de motivation, à la fois à l'entraînement et en compétition, qui te poussent à te surpasser.
Merci Jimmy déjà. Jimmy, c'est mon entraîneur depuis l'an passé, depuis que je suis arrivé dans l'équipe. Donc ma source de motivation et on va dire ce qui fait mon mental, c'est depuis l'an passé, je suis devenu papa. Ça a fait beaucoup dans ma vie de sportif de haut niveau. J'ai relativisé beaucoup de choses sur tout. Par exemple, avant quand je finissais une course, que j'étais déçu, je ressassais pendant quelques jours après. J'étais toujours sur la déception. Et là, ça me permet de passer à autre chose, de relativiser pas mal de choses. Et c'est ce qui fait mon mental en course et ma force.
Un petit garçon, une petite fille?
Une petite fille,
Ça
Ayla.
lui fait quel âge?
Ça va lui faire un an et demi là, bientôt.
Ah ouais, c'est du travail, c'est de l'organisation, ça change beaucoup de choses, hein, effectivement. Et c'est pas trop dur comme ça d'être assez loin de la maison pendant le Tour de France, ça sera 3 semaines, mais là avec cette coupure, t'arrives à t'y faire?
Là, c'est vrai que on est souvent parti. Moi, je sais que depuis début mai, juin, juillet, je vais être peut-être 10 jours maximum à la maison. Donc c'est pas facile quand on a un enfant de cet âge-là, ça grandit tellement vite en une semaine. On a l'impression
C'est vrai.
qu'elle grandit, qu'elle prend un an. Et heureusement qu'il y a les visios pour prendre des nouvelles tous les jours et la voir grandir. Mais non, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas facile. C'est des sacrifices, mais qui sont importants pour la carrière. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci.
Est-ce que tu as réussi à avoir les premiers pas?
Oui, bien sûr, ouais,
Ah,
bien sûr.
t'étais
C'était
là.
juste avant la saison, donc c'est bien tombé.
Bon, bah, génial, génial. On le rappelle, hein, pour ceux qui ne te connaissent pas, Franck, tu fais partie d'une lignée de cyclistes. Le papa et la maman hein, étaient tous deux coureurs. La maman, c'est Christine, elle avait été championne de France Espoir, si je ne dis pas de bêtises. Et puis le papa, bah, on
C'est
le
ça.
connaît, un ancien professionnel, notamment à la Castorama de Laurent Fignon. Tu as de quoi tenir. Alors peut-être que la petite, dans quelques années, maintenant que le cyclisme féminin est en plein développement, elle a un chemin tout tracé, non?
Peut-être, qui sait, peut-être qu'un jour elle fera du vélo, mais elle fera surtout ce qu'elle aime et ce qu'elle voudra.
Effectivement. Autre question pour toi, Alexis Goujard, ça tombe bien, il n'est pas très loin de toi puisque vous êtes ensemble en stage à Tignon, on l'écoute.
Salut Francky, c'est à toi de faire la popote ce soir. Qu'est-ce que tu nous as préparé?
C'est la question gastronomie.
C'est déjà moi qui ai fait à manger ce midi, alors je pense que ce sera l'histoire.
Ça, c'est une bonne chose. C'était un souhait pour toi de partir à deux seulement avec Alexis ou tu voulais peut-être embrayer d'autres coureurs ou tu avais besoin d'être comme cela en petit comité pour bien te préparer?
Non, moi je souhaitais le faire déjà. J'avais dit à l'équipe que je voulais faire ça depuis le début de l'année et que si quelqu'un voulait venir avec moi, que c'était mieux d'être plusieurs. Et bah, Alexis a été tout de suite OK. Donc à deux, c'est beaucoup mieux. Ça passe un peu plus vite là-haut parce que à part rouler, on n'a pas grand-chose à faire. On peut penser qu'au vélo, donc c'est l'idéal pour s'entraîner. Ouais.
Question de Lilian, tu as été champion d'Europe junior en 2013, Franck, coureur, on peut dire, à maturité tardive dans tes résultats. Qu'est-ce que ça te fait, toi, aujourd'hui, de par ton expérience, qui commence à être plutôt pas mal, de voir des jeunes de 19, 20 ans arriver tout de suite dans le milieu professionnel et tout de suite gagner, tout de suite performer? Qu'est-ce que ça t'inspire?
Ah oui, le vélo a changé en très peu de temps. Maintenant, les jeunes qui arrivent gagnent des courses tout de suite dès leur première année. Donc, je ne sais pas si c'est un problème ou si c'est justement la formation qui a progressé. Je sais qu'on est professionnel de plus en plus tôt depuis voilà, cadet, junior. On est suivi au maximum avec des outils qui sont bah, le capteur de puissance. Il y a des suivis d'équipe aussi de plus en plus jeunes. Et voilà, ça force les jeunes à être plus professionnels et à arriver chez les pros et marcher tout de suite. Donc oui, moi j'ai mis quelques temps à me faire au monde professionnel. C'est vrai qu'on me disait beaucoup, t'es jeune, tu as le temps.
Oui.
Mais finalement, on n'a pas tant le temps que ça. Donc non, il faut profiter. Une carrière, ça passe vite. Je me rends compte maintenant, ça fait 7 ans que je suis professionnel et j'ai l'impression d'être passé pro l'an passé. Mais ouais, c'est vrai que c'est ces jeunes-là qui arrivent et qui révolutionnent un peu tout le peloton, ça impressionne.
On parlait de ta chute sur le Grand Prix La Marseillaise en début d'année. Les chutes, il y en a de plus en plus dans le peloton. On a beaucoup de questions dans ce sens. Tu le disais, professionnel depuis plus de 6 ans maintenant. Est-ce que tu trouves qu'il y a plus de chutes qu'avant ou c'est toujours pareil, sauf qu'on en parle un peu plus? Tu es dans quelle catégorie?
Non, moi je trouve que ça tombe quand même beaucoup plus qu'avant. Les raisons, il y en a plusieurs, je pense. Hein. Les aménagements qui sont,
Oui.
les aménagements urbains qui sont de plus en plus présents sur le bord de la route. Voilà, des arrivées dans des villes où bah, il n'y a pas le choix, faut arriver dans la ville. Donc forcément, faut passer par des dodanes, des ronds-points et tout ça. Mais non, non, il y a beaucoup de choses qui font qu'il y a de plus en plus de chutes. La vitesse aussi, peut-être qui est plus rapide. Peut-être le respect aussi, le respect entre coureurs qui parfois n'est pas présent sur les courses. Donc c'est un tout. Ouais.
Oui, on parle beaucoup de ça, justement, des comportements qui ont évolué dans le peloton, en parlant en off avec certains coureurs qui nous disent, de toute façon, aujourd'hui, maintenant, dans les 5 derniers kilomètres, si tu touches les freins, tu peux plus gagner. Et les coureurs l'ont bien compris, ça se bouscule un peu plus qu'avant, il y a moins de respect, tu confirmes, toi qui l'es à l'intérieur de ce peloton.
Oui, complètement. C'est vrai que des fois, on voit des arrivées, on se dit, c'est pas tombé, mais on se demande pourquoi. Et non, c'est vrai que bah, je trouve, en tout cas personnellement, de plus en plus De plus en plus stressant et de plus en plus nerveux. Mais bon, qu'on trouve des solutions pour arranger tout ça, parce que on fait pas, enfin moi en tout cas je fais pas ce sport pour tomber à 70 km/h par terre, et c'est pas très joli à voir, quoi.
Oui, c'est pas très joli à voir. Et puis effectivement, comme tu l'as très bien dit, on ne fait pas ce sport pour cela. Le Bistro News, il s'est passé beaucoup de choses cette semaine, le Critérium du Dauphiné, bien entendu. Et puis il y a quelques minutes, la deuxième étape du Tour de Suisse, tu l'as suivi, j'imagine, Franck, avec l'arrivée victorieuse d'Andreas Løkkesund, le Norvégien de la formation DSM sur la deuxième étape. Et puis un petit fait de course avec Alberto Bettiol qui sprint pour la deuxième place, mais lui, il pense qu'il a gagné. Il lève la main. Bon, j'imagine que ça te fait sourire de voir cette image derrière.
Ouais, c'est toujours amusant. On se met à la place à sa place. On se dit que c'est pour lui, ça sera pas très drôle, mais on se demande des fois comment ça peut arriver encore avec les oreillettes.
C'est fou.
Mais après, des fois, voilà, ça peut. Certains coureurs aiment bien enlever les oreillettes. Enfin, moi, j'en fais partie dans le final de certaines courses pour être concentré au maximum. Donc, ouais, ça peut toujours arriver. Hein.
On a vu le podium final du Critérium du Dauphiné. On le disait, Primož Roglič, le doublé de la Jumbo-Visma qui s'impose devant Jonas Vingegaard. La troisième place pour Ben O'Connor. Toi qui l'as vécu de l'intérieur, ce Critérium du Dauphiné, qui a côtoyé Primož Roglič, Jonas Vingegaard, est-ce qu'ils t'ont impressionné, les Jumbo-Visma?
Oui, il y avait Jumbo et les autres sur ce Dauphiné. Ils étaient impressionnants. Quand on s'est fait reprendre sur cette dernière étape, ils étaient quasiment tous là encore en haut du dernier col. Donc, non, non, ils ont une équipe vraiment très forte. Ils laissent des petites miettes aux autres. Hier, on espérait qu'ils nous laissent un petit peu plus de chance sur une étape avec des coureurs qui étaient assez loin en général, mais bon, ils voulaient gagner l'étape est générale. Donc non, non, ils sont très forts et montrent qu'ils sont ultra favoris pour le tour.
Ils l'ont fait avec donc ce doublé du côté du plateau de Solaison. La troisième partie, le dessert du jour, le mondomètre et le francomètre. Nous, on essaie de regarder un petit peu les performances de chaque formation, de chaque équipe. Le mondomètre, toujours dominé par l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl avec 27 victoires devant la formation de Tadej Pogacar, 25 victoires. Les Grenadiers d'Ineos avec 23, c'est très resserré. Alain Jumbo-Visma également 23. Et puis notre Francomètre, où on classe les équipes françaises avec le nombre de victoires. Arkéa Samsic au coude à coude avec la formation Cofidis, 11 succès. Et puis l'équipe BNB Hotel dont tu fais partie, KTM, avec 3 victoires. On imagine hein, que c'est pas assez. Ça serait quoi l'objectif concret pour ta formation? On signe tout de suite les yeux fermés pour une victoire sur le Tour de France, j'imagine.
Ouais, bien sûr. S'il y a une victoire sur le Tour de France, on peut dire que ça
La saison est
oublie tout
réussie.
le début de saison. La saison a réussi complètement. Et non, non, le Tour de France, c'est notre principal objectif. C'est le principal objectif de beaucoup d'équipes. Mais nous, en tant qu'invités, on se doit de se montrer et essayer de gagner cette étape qui nous passe à côté depuis 2 ans maintenant.
Et Clément Roynet qui nous demande combien il y a de coureurs dans la présélection pour le tour dans ta formation. Là, tu vas peut-être trahir un secret.
Non, on ne sait pas encore. On sait pas encore combien de coureurs il y a. Je pense que ça sera annoncé après le championnat de France. L'équipe laisse quelques places pour le championnat de France, je pense. Ouais.
À titre personnel, toi, Franck, tu vas partir dans quel état d'esprit sur ce tour? Tu en as discuté un petit peu avec ton manager Jérôme, avec les directeurs sportifs. Tu vas essayer de repartir dans un esprit conquérant, avec des échappées, viser peut-être quelque chose d'un peu plus concret, sélectionner quelques étapes. Tu le vois comment, ce prochain tour qui va démarrer à Copenhague, au Danemark?
Je le vois assez différemment de l'an passé. J'ai bien sûr envie de faire des échappées, d'être devant, mais d'essayer de plus ciblé sur certaines étapes et mettre moins d'énergie sur certaines autres, et pas penser au classement général, bien sûr, et c'est ça, tout faire pour essayer d'aller gagner une étape. Ça sera mon objectif.
C'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas. Le questionnaire du Bistro Vélo, Franck, est-ce que tu te souviens de tes premiers coups de pédale?
Oui, c'était, je devais avoir 14-15 ans. J'avais pris le vélo Look à l'époque de ma mère et j'étais allé faire 2 heures. Et puis, c'est ce qui m'avait motivé. C'était une révélation pour moi pour faire du vélo. Je faisais du foot encore à l'époque et j'ai tout arrêté pour faire du vélo.
On est plus look ou KTM du coup?
Plutôt KTM.
Plutôt KTM. Faut la bonne réponse hein, pour le sponsor. Attention, il y a beaucoup de questions. On va y répondre hein, sur avec qui tu roules à Lannion. Alors là, ça turlupine beaucoup de monde sur le live Facebook. Tu roules avec quelqu'un en particulier à Lannion ou tu fais tes sorties solo?
La majorité du temps, je suis tout seul parce que j'ai toujours des exercices à faire à droite à gauche sur des parcours voilà, un peu différents tous les jours. Mais ça m'arrive de rouler avec Joanne Lebon qui est aussi à Lannion. Qui est amateur à Dinan et avec qui je partage quelques sorties d'entraînement, surtout l'hiver, les sorties foncières.
Bon, bah pour tous les habitants de Lannion et du coin, si vous voyez un bonhomme en vert passer à toute allure, c'est Franck, il faut lui courir après, du moins pédaler assez fort pour essayer de le rattraper. Franck, est-ce que tu avais un idole de jeunesse quand tu étais un petit peu plus jeune, adolescent, des posters dans ta chambre, que ce soit un coureur cycliste, un acteur, un chanteur, je ne sais pas, quelqu'un qui t'inspirait?
J'ai pas quelqu'un en particulier, j'aimais bien Contador parce que c'était un attaquant qui prenait des risques et puis j'aimais bien son style en montagne. Moi, s'il y avait quelqu'un à ressortir, ce serait plutôt lui, ouais, Contador.
Alberto Contador, le pistolero. Ta course préférée, Franck?
Le Tour.
On fait classique. Tour,
j'y ai goûté l'an passé et non, c'est ma course préférée. Peut-être avec l'Arctic Race of Norway qui me plaît beaucoup, que j'ai fait 3 ou 4 fois et que j'adore avec des paysages incroyables.
Ouais, c'est sublime en Norvège, effectivement, au milieu des fjords. Qu'est-ce qu'elle a de différente? C'est vrai qu'on pose souvent cette question aux invités, la réponse c'est quasiment toujours la même, c'est le Tour de France ou Paris-Roubaix pour ceux qui habitent un petit peu plus dans le nord, qui aiment les pavés, mais qu'est-ce que ça représente, toi qui as roulé dans plusieurs pays, qui a fait plusieurs courses, beaucoup de courses, des grandes compétitions. Franck, qu'est-ce que ça a de plus, ce Tour de France? Alors, on est français, mais il y a quoi? Il y a une atmosphère, quelque chose d'un peu mystique, non?
Ouais, il y a l'événement, le Tour de France, et c'est quelque chose, bah, moi, personnellement, que je suis depuis tout petit, qui me fait rêver. Et oui, l'atmosphère, le nombre de personnes sur la route, même si l'an passé, il y avait toujours ce Covid qui était présent et j'espère que ce sera un peu mieux. Il y aura encore plus de monde sur les bords de route cette année, mais non, c'est un tout. C'est la vitesse aussi du peloton. C'est les premiers jours de mon Tour de France l'an passé, j'étais assez impressionné de la vitesse à laquelle ça roule parce que, bah, bien sûr, les meilleurs coureurs du monde sont là, donc il y a un niveau très élevé et c'est un tout.
Qu'est-ce que fait Franck Bonamour quand il n'est pas sur le vélo, que ce soit à l'entraînement ou à compétition? C'est quoi tes passe-temps, tes hobbies, Franck?
Bon, moi, j'aime passer du temps avec ma famille, les choses simples de la vie. Bon, aller me promener au bord de mer, chez moi en Bretagne, voilà, aller sur des marchés, les choses simples de la vie. Je suis pas quelqu'un de compliqué. Mais passer du temps avec ma famille, c'est ce que je préfère le mieux. Ouais.
Quand on disait que tu étais un garçon simple, voilà, la réponse, elle est toute trouvée. Quel est le garçon qui t'impressionne le plus dans le peloton actuellement, Franck, toi qui côtoies ces champions au quotidien? Est-ce qu'il y en a un qui sort du lot, que ce soit un sprinter, un grimpeur, un rouleur, peu importe?
Alors, ouais, moi, je suis de la génération 95. Alors, j'ai fait toutes mes classes chez les jeunes avec Van Der Poel. Et c'est quelqu'un qui m'a toujours impressionné, qui a toujours été au-dessus du lot depuis tout jeune et maintenant qui est encore très très fort. Et ouais, c'est quelqu'un qui m'impressionne parce que
le vélo, c'est facile.
C'est ça, on a l'impression que c'est facile. On a l'impression que c'est facile pour lui, il peut tout faire et ouais, c'est peut-être le gars qui m'impressionne le plus sur le lot. Ouais.
Si un jour il te regarde sur une étape du Tour de France dans quelques semaines, il te dit « Viens, on part ensemble pour l'échapper, t'y vas ?»
Ah oui, j'y vais, ouais. J'y vais, ouais, complètement. Ouais.
C'est peut-être la bonne roue à prendre, effectivement. Ce que tu aimes le plus dans ton métier de coureur cycliste professionnel, Franck?
Moi, c'est les courses, principalement, l'atmosphère des courses. Tout ce qui peut se passer sur une course, dans un final de course, c'est vraiment ça, l'atmosphère de jouer la gagne, le petit stress d'une fin de course, pas faire d'erreur, essayer de faire le maximum, de donner le maximum et puis se surpasser, toujours aller chercher le meilleur de soi.
A contrario, ce que tu aimes le moins dans ce métier de coureur cycliste professionnel?
Bah, je dirais plutôt l'éloignement de ma famille. Ça, c'est quelque chose, ouais, qui est assez difficile. Et sinon, les chutes, c'est quelque chose qui est pas très sympa non plus.
Question de Mickaël Godin. Les JO 2024, tu les as dans un coin de ta tête?
Pourquoi pas, oui, pourquoi pas. En France, surtout, ça peut être extraordinaire, hein, faire les JO à domicile, oui, pourquoi pas. Faudra en parler avec le sélectionneur.
Il faut en parler avec le sélectionneur Thomas, si tu nous écoutes. Le mot de la fin maintenant, parce qu'on va te laisser tranquille après. Il y a, j'imagine, un petit peu de restauration et puis se préparer la popote, même si tu nous as dit que c'était Alexis ce soir qui s'y collait. Si tu avais un souhait et qu'il soit exaucé, tu choisirais quoi? Ça peut être tout et n'importe quoi, du sportif, de l'extra sportif. Qu'est-ce que tu choisirais, Franck? Je sais, c'est pas évident.
Qu'est-ce que je choisirais? Déjà d'être heureux dans la vie, d'être en bonne santé, que ma famille soit en bonne santé, ça, c'est pour moi, c'est le principal.
Et c'est tout ce qu'on te souhaite, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Franck Bonamour, d'avoir été notre invité aujourd'hui. On va te suivre sur les championnats de France, sur Eurosport et puis sur le Tour de France, où on t'attendra. Mais avant cela, regarde le programme de cette semaine. Il est très très riche jusqu'à dimanche, la suite du Tour de Suisse, le Tour de Slovénie qui démarrera mercredi au même titre que le Tour de Belgique. Et la route d'Occitanie de jeudi à dimanche, tout ça à suivre, bien entendu, sur Eurosport. Merci beaucoup, Franck. Et on te dit à très vite sur Eurosport.
Merci, salut.
Salut à tous, bye bye. Lundi prochain, nouveau numéro avec la championne de France, Evita Music, qui sera notre invitée.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.